Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Aujourd'hui, sur qui Trump peut-il encore compter ? De drôles de petites statues ont fait leur apparition dernièrement sur les trottoirs de Brooklyn, à New York. Des bustes de Donald Trump, à hauteur de caniche, posés sur un carré de pelouse synthétique, avec cette injonction écrite en grosses lettres « Pee on me, urine-moi dessus ». Alors la présence de ces statues, documentée par le Daily Mail, donne une idée, s'il en était besoin, du rejet que continue d'exercer le président américain pour une partie de ses concitoyens. Rejet qu'ils auront l'occasion d'exprimer le 6 novembre prochain lors des élections de mi-mandat. Alors certes, ces élections ne concernent pas Donald Trump directement, il s'agit de renouveler un tiers du Sénat et l'ensemble de la Chambre des représentants, mais elles offrent aussi l'occasion à la fois de tester la popularité du président américain et de décider de l'avenir du pays pour les deux années à venir. Aujourd'hui, le Parti républicain est majoritaire dans les deux chambres, qu'ils viennent à perdre l'une d'entre elles, et Donald Trump devra composer avec ses pires ennemis, les démocrates. Il n'a donc pas d'autre choix que de rassembler son camp lors de ces élections. Mais que pèsent aujourd'hui ses partisans ? Sur qui Trump peut-il encore compter ? C'est la question du soir en compagnie de trois invités. Anne Desine, bonsoir. Vous êtes juriste, professeur à l'université Paris-Ouest Nanterre, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis. Vous avez publié en 2015 chez Dalloz, la Cour suprême des États-Unis. Pour discuter avec vous, Laurence Nardon, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et vous publiez ces jours-ci les États-Unis de Trump en 100 questions aux éditions Talendier. Et puis notre troisième invité, il est en duplex de Washington, il s'agit de Gregory Phillips, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous êtes journaliste, vous êtes le correspondant permanent de Radio France aux États-Unis. On vous a entendu d'ailleurs il y a quelques minutes dans le journal d'Aurélie Kiefer. Alors on va essayer de voir quels sont les soutiens aujourd'hui de Donald Trump. Est-ce que c'est son bilan, son principal atout ? Est-ce que c'est ce sont ses électeurs, son parti, son administration ? Mais avant cela, je voudrais peut-être qu'on pose en quelques mots les enjeux autour de ces élections de mi-mandat, ces mid-terms. Est-ce qu'on peut dire, Laurence Nardon, qu'il s'agit d'un, notamment, peut-être pas exclusivement, mais notamment d'un référendum pour ou contre Trump ?
Oui, comme la plupart des élections de mi-mandat, c'est-à-dire celles qui se passent au milieu du mandat présidentiel de 4 ans, c'est généralement un référendum sur la personne du président, matiné d'enjeux locaux, puisque comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas d'une élection présidentielle, mais d'une élection législative, associé le plus souvent de très nombreuses élections au niveau des États, parce qu'on est dans un État fédéral, de gouverneurs, de législatures d'État, etc. Ce qu'on voit dans les sondages aujourd'hui, c'est que la détestation ou l'amour du président va compter pour beaucoup dans cette élection, dans le choix des électeurs.
Anne Desine.
Oui, tout est exact. Ces élections sont traditionnellement perdues par le président, c'est-à-dire on se rappelle Bill Clinton élu en 92, camouflé terrible en 94, même chose pour Obama. Donc un temps on a pu penser que les démocrates pourraient remporter les deux chambres. Selon les derniers sondages, ils ont de bonnes chances de remporter la Chambre des représentants et c'est loin d'être inutile, ça apportera pas mal de pouvoir dont on pourra parler. En revanche, au jour d'aujourd'hui, il faut penser que les républicains conserveront la majorité au Sénat. Et ça, c'est très très grave pour ceux d'entre nous qui sont attachés aux droits économiques, sociaux, politiques et civiques, parce que ça va permettre à Trump de continuer à nommer en particulier des juges. Alors, il a déjà nommé 2 juges à la Cour suprême, mais il vient de proposer 15 noms pour des juridictions inférieures, cours de district et cours d'appel. Or, aux États-Unis, c'est le judiciaire qui a le dernier mot. Donc, il faut penser que si une question politique sur les pouvoirs du président ou sur une question de droit de vote ou n'importe quoi arrive devant les juridictions fédérales, avec cette avalanche de juges conservateurs qui arrivent grâce à Trump et aux leaders de la Chambre, bon ça c'est le passé qui avait confisqué un siège, etc., l'Amérique est en train de changer de couleur.
Alors ça veut dire qu'il ne s'agit pas uniquement de mesurer la popularité à travers le résultat de ces élections, mais aussi de décider de ce que va être la vie politique pour les deux années à venir. Ça en fait un enjeu peut-être encore plus particulier cette année, Gregory Phillips, du fait de la personnalité de Donald Trump et d'une bipolarisation qui n'a peut-être jamais été aussi importante que ces dernières années.
Oui, et d'ailleurs, cette question des juges, notamment de la Cour suprême, ces deux juges nommés par Trump, elle peut, à nous Français, paraître un peu lointaine en disant que ça ne concerne pas le quotidien des gens. Mais si, quand on parle avec les électeurs républicains ou démocrates, ils en font une question centrale. J'étais dans le Michigan il y a quelques jours et j'ai assisté à une réunion de militants républicains, plutôt trumpistes, à Détroit. Et ils notaient que la nomination, notamment du juge Kavanaugh, du juge conservateur, était une vraie victoire pour eux. C'était quelque chose de très important. Quand on leur demandait un peu ce qui les motivait, notamment pour la prochaine élection, c'était ça en un, et puis deux, l'économie. Pareil du côté démocrate, qui sont arc-boutés, qui étaient arc-boutés contre la nomination du juge Kavanaugh, pour eux, c'est quelque chose d'absolument essentiel, ce qui s'est passé à Washington. Donc il y a des enjeux locaux, mais il y a aussi un vote sur ce que Trump a réussi à faire, et notamment pour les républicains, il a réussi à nommer un juge conservateur à la Cour suprême, et c'est important pour les gens.
C'est une campagne qui est très polarisée aujourd'hui, Laurence Nardon. Qu'est-ce que ça peut impliquer si jamais les démocrates reprennent la Chambre des représentants. C'est-à-dire qu'on se retrouverait, alors comparaison n'est évidemment pas raison, mais dans une période de cohabitation. Alors les États-Unis en ont l'habitude, il ne s'agit pas du tout d'avoir une cohabitation à la française, mais est-ce que là les positions ne sont pas à ce point distantes que ça serait compliqué d'avancer par compromis entre une administration Trump et une Chambre des représentants qui serait démocrate?
Vous avez raison qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis une atmosphère de polarisation mais extrême, avec vraiment une hystérie côté progressiste et une fureur du côté républicain qui sont vraiment stupéfiantes. Et quand on parle aux uns et aux autres, successivement, on a l'impression vraiment, on a le sentiment de passer au travers du miroir et de parler à des gens qui sont sur une autre planète. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant.
Les républicains font notamment en campagne sur le danger que représentent les démocrates aujourd'hui.
Oui, et vice-versa, bien entendu. Et par ailleurs, vous avez en même temps raison de dire que le système américain est un système présidentiel et non pas parlementaire. Et donc, on peut pas parler juridiquement de cohabitation, mais c'est vrai que le président a très souvent affaire dans l'histoire à un congrès qui est de l'autre côté, politiquement de lui, et que ça crée, finalement, c'est comme ça que fonctionnent les contre-pouvoirs aux États-Unis.
Mais ça veut dire qu'il y a une culture du compromis qui pourrait être reproduite avec Donald Trump?
Malheureusement pas, parce qu'en réalité, c'est ces institutions qui peuvent se bloquer les unes les autres, c'est le système des checks and balances, des freins et des contrepoids dans les institutions américaines, a été pensé par les pères fondateurs en 1787 comme justement un système dans lequel le compromis devait fonctionner, parce que les institutions, la présidence, le congrès, la Cour suprême et la société civile se bloquaient les uns les autres, donc il fallait faire des compromis pour qu'on avance ensemble. Et ce qui se passe depuis que cette polarisation s'est mise en place aux États-Unis, c'est-à-dire, on va dire, les années 90 à peu près, enfin bon, un peu comme ça, mais en tout cas aujourd'hui, on est vraiment dans une situation extrême, c'est que le compromis est devenu absolument impossible et que, du coup, la situation est bloquée. Et donc là, pour répondre enfin à votre question très concrètement, si les démocrates reprennent la Chambre, comme c'est probable, eh bien on aura un président qui ne pourra pas faire passer de loi parce qu'elles ne seront pas votées par la Chambre, et donc il passera par des décrets, par la jurisprudence de la Cour, mais on aura une situation largement bloquée.
Donc pour mener sa politique, et aussi peut-être pour s'assurer un avenir, soit dans le cadre d'une reconduction à la Maison-Blanche s'il est à nouveau candidat en 2020, mais aussi peut-être par rapport aux affaires judiciaires qui le touchent plus ou moins indirectement, Anne Desine, Trump doit impérativement à pouvoir enregistrer une victoire des républicains dans les deux chambres. Il le fait d'ailleurs, il fait beaucoup campagne actuellement.
Il fait tout à fait campagne en disant, si vous voulez qu'on nous laisse tranquille, si vous voulez qu'on nous laisse continuer notre politique, qui est bien sûr tout à fait au détriment des gens qui ont voté pour lui, la classe moyenne blanche, mais si vous voulez qu'on continue, surtout faites en sorte qu'il n'y ait pas de majorité démocrate à la Chambre. Alors, pour aller un petit peu plus loin que ce que disait Laurence, il y a plusieurs choses. À la Chambre, on va distinguer deux pouvoirs, il y en a plusieurs, mais il y a le pouvoir législatif et le pouvoir de surveillance, qu'on appelle oversight. Législatif, il faut bien voir que même quand un président a une majorité dans les deux chambres, il n'y a pas beaucoup de lois. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec Trump, parce que les partis sont maintenant extrêmement hétérogènes, composés de factions, et donc de toute façon, faire passer une loi, c'est un véritable parcours du combattant. Il n'y a pas du tout une sorte de procédure législative comme en France qui facilite la tâche en France au Premier ministre. Pas du tout. Donc c'est compliqué de faire adopter une loi. Et à la limite, Trump, qui est évidemment candidat en 2020, il a déjà collecté 100 millions de dollars. C'est le plus haut chiffre de tout candidat à sa réélection. Donc il est candidat, mais il se moque bien des lois qu'il peut faire adopter. Ce qu'il veut, c'est rester au pouvoir. Et c'est là que cela pose problème. C'est pas ce qu'il dit dans ses meetings, mais c'est ça son problème. Car si les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre, ils peuvent faire usage de leur pouvoir de surveillance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si les démocrates sont majoritaires, ils président les commissions. Alors, à la fois la commission financière et la commission judiciaire, toutes les autres, mais ces deux-là. Et ça permet aux démocrates de demander la déclaration d'impôt de Trump, nous en parlions à l'instant, mais cela permet surtout d'enquêter sur toutes les choses bizarres. Alors, l'Empire Trump, les affaires de Trump, le cas échéant du genre, les ministres qui font des choses bizarres, Ross, à qui on demande de justifier pourquoi il a demandé d'ajouter une question sur la nationalité dans le recensement. Et donc, c'est par l'intermédiaire de ce pouvoir de surveillance, de contrôle, que la Chambre peut tout à fait bloquer le travail des républicains et de l'administration Trump. Ce qui peut se retourner sur eux en 2020 s'ils noient totalement le poisson.
Alors évidemment, on n'en est pas encore là. Il faudra attendre les résultats de ces élections de mi-mandat qui auront lieu, je le rappelle, le 6 novembre prochain. Trump a donc intérêt à ce que les républicains restent majoritaires et au Sénat et à la Chambre des représentants. Et quand on veut être réélu président, on compte à la fois sur son programme, on verra bien ce que ça sera en 2020, mais on compte aussi sur son bilan. Ça fait presque 2 ans que Trump est à la Maison-Blanche, Gregory Phillips. Est-ce qu'il peut se prévaloir d'un bon bilan, notamment sur le terrain économique?
Ah bah oui, c'est ce qu'il fait hein, dans tous ses meetings. Il est énormément sur le terrain et qu'est-ce qu'ils vont? Eh ben un chômage à moins de 4%, une économie qui va bien. Alors toute la question est de savoir si c'est l'œuvre de cette administration ou bien celle de son prédécesseur Obama. Mais ça c'est le bilan qui vend en numéro 1. En numéro 2, il vend ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir la nomination des juges conservateurs à la Cour suprême et des autres juges qui sont en train peu à peu de changer le visage de l'Amérique. Mais oui, c'est le bilan qu'ils vont. Bilan aussi, alors ça concerne un peu moins l'électorat de base, mais bilan de sa politique internationale, la Corée du Nord, regardez, je travaille avec Kim Jong-un, il n'y a plus de menace, etc. Donc il joue un peu sur ces trois tableaux, sachant qu'évidemment l'économie est ce qui concerne en premier lieu les gens.
Il se place aussi, Gregory Phillips, en protecteur de l'économie américaine. Il a réussi à faire renégocier l'ALENA, cet accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique. Il y a qu'on appelle une guerre commerciale actuellement avec la Chine, il y a des mesures de protection de l'économie américaine. Est-ce que ça lui vaut un soutien, au-delà du seul soutien de l'électorat, peut-être de son électorat républicain, un soutien du monde économique?
Alors écoutez, ça c'est assez paradoxal parce que effectivement il y a tout ce discours America First, l'Amérique protectionniste, etc. Et j'en parlais avec une femme qui est sous-traitante dans le milieu de l'automobile dans le nord des États-Unis et qui me disait j'ai voté Trump, mais pourtant j'ai bien le sentiment que cette guerre économique, on va la payer cher, nous. L'exemple, c'est qu'elle sous-traitait notamment des productions de pièces automobiles en Chine qui lui coûtent beaucoup plus cher maintenant, et elle dit bah voilà, la politique de Trump, elle me coûte cher et dans une guerre économique, tout le monde perd. Donc les milieux économiques sur ce protectionnisme à la Trump, à la America First sont quand même assez dubitatifs.
Bon, Laurence Nardon, cela dit, pour reprendre ce que disait Gregory Phillips, le chômage à moins de 4%, une croissance qui va plutôt bien, je crois qu'on en est à un taux au-delà de 4% également, des centaines de milliers d'emplois qui ont été créés depuis que Trump est arrivé à la Maison Blanche. Sur qui Trump peut-il compter? Sur quoi peut-être? Et d'abord son bilan économique, non?
Ce bilan économique, effectivement, il est très bon. Alors après, on peut pinailler parce que les 4,1 de croissance qui sont enregistrés ce trimestre-ci sont liés aux suites de la réforme fiscale. Donc c'est un petit peu une petite bosse positive comme ça. On peut aussi pinailler sur le taux de chômage qui n'est pas calculé comme chez nous, donc qui est peut-être au-dessus de 3,5% officiel. Mais quand même, les choses vont très très bien.
Sachant qu'il avait fait notamment campagne en 2016 sur ces questions.
Oui, oui, il avait fait campagne sur ces questions. J'ajoute aussi un troisième caveat que beaucoup d'économistes prévoient l'explosion de la bulle et une correction des marchés dans les mois qui viennent. Mais on verra. Pour l'instant, en tout cas, il peut vendre un excellent bilan à ses électeurs. Et ce qu'il vend également à ses électeurs, et notamment ceux de la classe moyenne, c'est le fait qu'il a tenu ses promesses. Donc, on parlait tout à l'heure des juges, et il a tenu ses promesses à son électorat conservateur, donc la droite chrétienne, etc., qui voulait des Gorsuch et des Kavano à la Cour suprême. Donc, pour cela, le contrat est rempli. Trump a tenu ses promesses. Mais si on pense à l'autre partie de son électorat, c'est-à-dire la classe moyenne, blanche, peu diplômée, dans une sorte de déclassement social, inquiète, etc., cet électorat populiste-là, en réalité, aujourd'hui, 2 ans après son élection, il peut considérer que Trump a tenu ses promesses envers eux, même si dans les faits, leur situation ne va pas forcément s'améliorer. Quelles sont ces promesses tenues? D'une part, sur l'immigration, qui était l'une des attentes de cet électorat, il faut quand même malheureusement le reconnaître, le mur est en train d'être construit à la frontière avec le Mexique. Le Muslim Ban, c'est-à-dire ce décret qui entrave l'entrée de citoyens venus de 7 pays, dont 5 à majorité musulmane, etc., a fini par être accepté.
Après l'avoir été contesté en justice.
Mais 2 fois, donc la troisième.
C'est pas tout à fait la même mouture. Et
bien
la mouture
sûr,
qui a été acceptée est un peu plus acceptable, si
d'accord,
j'ose dire.
Mais dans les meetings, M. Trump peut dire « Regardez mon Muslim ban », etc. On est dans la rhétorique.
Voilà.
Et enfin, troisième point sur lequel cet électorat peut considérer que Trump a tenu ses promesses, c'est sur ce protectionnisme. Alors, on entendait cette Américaine qui se plaint parce que dans sa situation, ça ne l'arrange pas. Mais une fois de plus, dans sa rhétorique de meeting, Trump peut dire « Regardez, moi j'ai imposé une renégociation de l'ALENA au Mexique et au Canada et mettre en avant cette mesure phare de sa renégociation qui est que 40 à 45% des voitures devront être fabriquées par des employés gagnant plus de $16 de l'heure. On rentre dans les petits détails, mais ça c'est quelque chose qui est extrêmement vendeur pour cette classe moyenne inquiète.
C'est quand même pas si courant que ça, Anne Desine, de pouvoir revendiquer au bout de 2 ans de pouvoir, d'avoir tenu une grande partie de ses promesses. Est-ce que Barack Obama, au bout de 2 années de mandat, pouvait en dire autant, par exemple?
Non, mais lui a toujours cherché le consensus, qui manifestement n'était pas une bonne idée et qui lui est beaucoup reproché maintenant. Trump a toujours fait la force, le rapport de force, et il est vrai que c'est le Mexique qui a d'abord cédé, parce que compte tenu de la conjoncture chez eux, l'élection d'un populiste, il fallait que tout soit réglé avant que le monsieur en question arrive au pouvoir, et les Canadiens ont fini par céder. Alors, nous n'avons pas tous les détails de cet accord. Alors, c'est vrai que sur le papier, il y a des choses très bien, mais les nouvelles règles impliquant qu'il y ait 75% de pièces qui soient fabriquées, ça risque de poser des problèmes à terme. Tous les problèmes sont à terme. Mais pour le moment, tout va bien. Il y a 2-3 usines qui ont été rapatriées.
Le diable est toujours dans les détails, mais globalement, on peut quand même afficher une victoire, quoi.
Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que les électeurs de Trump, cette fameuse base de 40%, qui assistent au meeting, donc qui écoutent quand même 7 mensonges par jour, grosso modo, puisqu'ils mentent surtout sur le déficit, sur les bénéfices de l'accord, surtout. Ils sont réconfortés et ils sont galvanisés pour aller voter. Et de toute façon, quand ils vont commencer à sentir que le prix des produits importés de Chine augmente, que certains sous-traitants vont obliger de... Il y a un fabricant de clous qui a été obligé de se mettre en faillite et de fermer boutique parce que, à cause de l'augmentation du prix de l'acier, etc. Donc, il y a quand même un petit peu d'effet négatif des politiques conflictuelles de Trump. Mais ces gens-là sont tellement contents d'avoir bousculé la classe politique et d'avoir placé Trump au pouvoir, qu'ils gomment les effets négatifs déjà présents et qu'ils gommeront, je pense, les effets négatifs plus importants qui vont se déclarer dans l'avenir.
Alors du coup, comment est-ce que ça se manifeste au niveau du soutien du parti républicain, Laurence Nardon? C'est-à-dire, est-ce que les candidats pour le renouvellement d'un siège au Sénat ou pour la Chambre des représentants, côté républicain, essaie de surfer justement sur cette vague Trump, c'est-à-dire puisqu'il est encore assez populaire manifestement au sein de son électorat, ou bien est-ce qu'ils essaient de s'en distancier?
De toute manière, effectivement, le Parti républicain, depuis la victoire de Trump dans les primaires républicaines, c'était à l'été 2016, doit manger son chapeau et accueillir ce personnage, ce trublion qu'il n'aime pas du tout en réalité. Et donc, au niveau de l'establishment du parti, ce sont plutôt des conservateurs, donc ils acceptent ce président malgré eux. Et d'ailleurs, Vous avez vu cet éditorial anonyme qui est sorti dans le New York Times. Il était vraisemblablement écrit par un de ses conservateurs, puisqu'il mettait dans la lettre, regardez ce que nous avons fait, nous avons
voilà, vous faites
juges,
référence,
etc.
Voilà, quelqu'un qui fait partie de l'administration et qui explique qu'aujourd'hui, l'administration essaie de
cadrer le président.
De cadrer le président,
et
voilà.
De l'avancer et de faire fonctionner son programme dans le sens conservateur.
Voilà, donc tout ça, en revendiquant effectivement voilà, une politique très ancrée du côté des Républicains.
Hein. Absolument. Donc ça, c'est du côté des élites. Ouais. Mais vous parlez des candidats et là, nous avons toutes les situations, puisque nous avons eu des primaires républicaines pendant tout le printemps dernier, où on voyait dans certains États des candidats plutôt trumpiens défaire, ou ne pas défaire d'ailleurs, il y a eu tous les cas de figure, des candidats plutôt de l'élite du parti. Enfin, on a vu énormément de cas de figure se présenter qui montrent que le parti est rangé derrière Trump quand il le faut, mais pas nécessairement de bon cœur.
Ça peut être un atout aujourd'hui, Grégory Philips, quand on est candidat républicain pour la Chambre des représentants, pour le Sénat, que d'avoir le soutien direct peut-être de Donald Trump, hein, puisque vous, comme vous le disiez, il est en campagne aujourd'hui dans tout le pays.
Ah oui, sans aucun doute. Et d'ailleurs, il fait, je crois, 4 à 5 meetings par semaine en ce moment. Et ça va être, ce rythme va être le même jusqu'aux élections. Il est jeudi dans le Montana, vendredi dans l'Arizona, etc. Donc oui, il vient soutenir les candidats locaux. Et c'est un soutien de poids pour eux, évidemment. Je voudrais juste revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur la bipolarisation. Il y a aussi cette volonté de Trump et de ses candidats locaux de présenter les démocrates comme étant des démocrates radicaux. Vous savez, il y a l'exemple de cette jeune femme à New York qui s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez, qui se présente comme socialiste. Et ça, Trump joue beaucoup là-dessus en disant, attention, si vous ne votez pas pour nos candidats républicains ou pour moi indirectement, vous allez élire des socialistes à la Chambre. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il joue beaucoup, qui divise encore un peu plus le pays et qui est censé faire peur aux électeurs.
Est-ce qu'aujourd'hui, Grégory Philips, les élus républicains, quand ils sont en désaccord avec Donald Trump, dans la mesure où on est en période de campagne électorale, ils essaient peut-être de garder ça un petit peu pour eux parce que ça n'est pas forcément porteur justement d'un point de vue électoral.
Bah, on l'a vu par exemple avec l'élection la nomination du juge Kavanaugh à la Cour suprême. Finalement, les sénateurs se sont rangés derrière Trump. Il y a eu quelques voix discordantes, Flake notamment en Arizona, et puis finalement tout le monde s'est rangé derrière Trump.
Anne Desine.
Oui, Trump a pris le contrôle du parti républicain. Ce qu'a dit le sénateur Flake dont on vient de parler est très éclairant. Quand il a demandé l'enquête du FBI, il a expliqué « je peux faire ceci simplement parce que je ne me représente pas ». Et on a dit que finalement il avait voté oui pour le juge Kavanaugh parce qu'il envisage d'être candidat en 2020. Et personne ne lui pardonnerait d'avoir empêché la nomination d'un juge conservateur. Alors est-ce que Trump est un atout ou non? Tout dépend, ce sont des élections locales quand même, tout dépend de l'État et tout dépend de la circonscription. Dans les États rouges, il est clair qu'il peut faire campagne et que tout le monde a intérêt à se revendiquer et qu'il vient et que tout va bien se passer. Et
c'est d'ailleurs les États rouges.
Les États rouges, c'est-à-dire les États républicains, effectivement. Et c'est d'ailleurs un des dangers pour les démocrates, parce que les démocrates, par leur politique identitaire centrée sur les minorités, ont complètement perdu le contact avec les populations blanches des États rouges. Donc dans ces États, il peut faire campagne. En revanche, là où le président n'a peut-être pas trop intérêt à se montrer et où d'ailleurs les candidats n'ont pas très envie qu'il vienne, ce sont les circonscriptions un peu violettes ou les États un peu violets et les endroits où il y a beaucoup de banlieues blanches dans lesquelles les femmes sont absolument remontées contre ce qui s'est passé à cause de Kavanaugh, mais aussi plus globalement, dans le cadre du MeToo Movement. Il faut quand même voir que Trump, pendant les 18 mois, les 2 ans maintenant qu'il est au pouvoir, a soutenu une dizaine d'hommes, soit des candidats, Roy Moore, dans l'Alabama, soit des proches, celui qui était son secrétaire particulier, ce juge, accusé de harcèlement sexuel. Donc il y a quand même une rébellion très forte des femmes, et dans ces banlieues de classe moyenne, blanche, l'équilibre est très précaire et peut basculer du côté des démocrates.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Sur qui Trump peut-il encore compter? C'est la question que nous posons ce soir à Anne Desine, qui est juriste, spécialiste notamment de la Cour suprême des États-Unis, à Grégory Philips, le correspondant permanent de Radio France aux États-Unis, à Laurence Nardon, qui publie ces jours-ci les États-Unis de Trump en 100 questions chez Talendier. Alors on se demande sur qui il peut compter. On a parlé de son bilan, de son parti, de ses électeurs. Vous évoquiez tout à l'heure cette lettre anonyme publiée début septembre dans le New York Times par un membre de son administration. Je reprends juste un extrait. On peut y lire ceci, notamment: le problème dont le président n'a pas pris toute la mesure est que de nombreux hauts responsables de sa propre administration œuvrent activement de l'intérieur pour bloquer certains de ses projets et faire obstacle à ses pires penchants. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump, aujourd'hui, ne peut pas compter sur la loyauté de son administration ? Laurence Nardon.
Je pense que ce sont des personnages conservateurs assez sérieux et respectueux de l'état de droit. Et donc, au final, je ne pense pas qu'ils vont faire un coup d'État, si c'est le risque que vous soulevez.
Ne serait-ce que publier cette tribune, c'est quand même déjà...
C'est un vrai problème, fort, tout à fait. Mais je pense qu'ils pensent être dans le respect véritable de la Constitution ou des normes de comportement politique dans leur démarche. Mais je suis d'accord avec vous que c'est une telle démarche est en soi extrêmement problématique d'un point de vue démocratique, puisque le président est élu, ces gens-là ne sont pas élus, et pourtant ils se répandent donc anonymement, qui plus est qu'aux États-Unis, et vraiment, à mon avis, ça ne se fait pas.
Ils revendiquent d'ailleurs certaines réussites, notamment la réforme fiscale, en disant finalement, si c'est une réussite, c'est aussi grâce à notre action souterraine. Du coup, est-ce que finalement Trump peut compter aussi sur cette espèce d'état profond qui lui permettrait aujourd'hui de revendiquer un bon bilan parce que son administration a bien travaillé?
Alors, l'état profond, c'est autre chose. L'état profond, c'est l'alliance des agences de renseignement, des industries d'armement, etc., qui mèneraient de manière secrète la vraie politique des États. L'auteur de cet édito anonyme se revendique comme conservateur. Dans ce double électorat de Trump, il fait pas partie des populistes, il fait partie des conservateurs qui, finalement, ont fait cette espèce de pacte faustien avec le président en 2016 lorsqu'il a été élu. Nous allons voter pour vous, bien que nous ne vous aimions pas, puisque le président Trump n'est pas un conservateur chrétien très, très bien comme ses conservateurs derrière lui. Nous allons voter pour vous parce que vous allez mener une politique conservatrice qui nous plaît, et donc la politique fiscale et donc la nomination des juges à la Cour suprême.
Ça a eu un effet retentissant, j'imagine, la publication de cette tribune Grégory Phillips aux États-Unis. Est-ce que ça finit pas par semer le doute, c'est-à-dire à la fois cette tribune, les démissions et les évictions en cascade que connaît l'administration Trump depuis qu'il est au pouvoir? Ça fait quand même beaucoup à un moment donné.
Le livre de Bob Woodward aussi, qui décrit cette administration qui travaille presque contre le président. Oui, ça s'accumule. Il y a quasiment un livre tous les 15 jours, tous les 3 semaines qui décrit ça et des articles. Mais attention, la tribune anonyme dans le New York Times, c'était aussi vraiment à double tranchant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que Trump a eu très facilement la possibilité de dire: regardez, ils sont vraiment prêts à tout pour m'attaquer, y compris via le failing New York Times, via ce journal en échec permanent a publié des tribunes anonymes, et ça, vis-à-vis de son électorat, c'était un peu de l'or en barre pour Trump de dire: regardez, ces démocrates radicaux notamment sont prêts à tout, à aller chercher des conservateurs qui publient des tribunes anonymes dans leurs journaux, etc. Il faut faire attention à ce genre d'exercice, c'était un peu à double tranchant.
Plus Donald Trump est attaqué, finalement, Anne Desine, plus il semble bien se porter.
Ah oui, lui ne se sent pas du tout isolé. Il se sent attaqué, mais ça va tout à fait avec sa victimologie. Et lui, d'ailleurs, quand il parle d'état profond, c'est encore un autre sens. L'état profond, c'est tous les méchants qui veulent son départ et son échec. Alors essentiellement les démocrates, mais peut-être aussi des gens de l'administration. Concernant l'action de l'administration, j'ai toujours envie de parler de l'arbre et de la forêt. C'est-à-dire que nous sommes un peu polarisés par les bouquins, Michael Wolff, Bob Woodward, par les démissions, etc. Ça, c'est l'arbre. Mais derrière la forêt, c'est qu'il se passe tout un tas de choses dans les administrations. Le FBI continue d'enquêter. Alors peut-être il est soumis à certaines pressions. Le ministère de l'Environnement, c'est-à-dire l'Agence de l'Environnement, il y a eu beaucoup de démissions de personnes qui ne pouvaient pas supporter les nouvelles directions. Mais bon, il continue à se passer des choses. Le ministère des Affaires étrangères, certes, il n'a pas pourvu à 400 postes extrêmement importants. Mais les choses se passent. Mais surtout, ce qui se passe, qui est une mise en œuvre de son programme, c'est la dérégulation financière. Quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup en France, c'est Steve Mnuchin, qui est à la tête du département du Trésor. Alors, je ne sais pas s'il aimait Trump, mais en tout cas, c'est un ancien Goldman Sachs, de Wall Street, etc. Et il met tranquillement dans son coin une politique qui est en train de détruire les États-Unis, l'économie américaine et le peu d'égalité qui restait aux États-Unis. On va vers une financiarisation terrible, et lui, il a été un des acteurs de cette baisse d'impôts massive, essentiellement pour les riches et pour les entreprises. Et d'ailleurs, il envisage, là c'est un peu de l'international, mais c'est la même idée, compte tenu du décès du journaliste, l'Arabie Saoudite, etc. L'Arabie tient une grosse foire en ce moment, et il avait été dit que ce serait bien que les États-Unis ne s'y rendent pas. Et Steve Mnuchin va sans doute y aller. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il est sous le radar, pour une raison que j'ignore. En France, on n'en parle presque pas. Et il fait un boulot considérable, que moi j'appellerais de démolition, mais dont Trump et les partisans de Trump sont extrêmement contents.
Mais ce côté, alors qu'on peut considérer comme nocif de la politique de Trump, ça dépend évidemment de dans quel camp on va plutôt se placer, mais c'est quelque chose qui avait déjà été évoqué pendant la campagne présidentielle en 2007 avec l'insuccès que l'on sait, puisque la preuve, Donald Trump a été élu. Est-ce qu'il n'y a pas un défaut de stratégie dans la façon justement de s'en prendre à Donald Trump? Est-ce que les démocrates, par exemple Laurence Nardon, ont un petit peu révisé la façon dont ils doivent affronter cette administration Trump, puisque manifestement la fois d'avant ça n'a pas très bien marché?
Alors oui, il est temps d'aborder la question du Parti démocrate dans cette campagne et dans cette séquence politique à laquelle on assiste aujourd'hui aux États-Unis. Et force est de constater que le Parti démocrate, en fait, n'a pas du tout su tirer les échecs, les leçons de son échec en 2016, et aborde la campagne de 2018, et encore plus peut-être celle de 2020, dans une sorte de désarroi idéologique extrêmement profond, puisque on voit toujours s'affronter au sein du Parti démocrate le clan des Clintoniens qui développe un programme économique qu'on appellerait libéral en France, dans la dérégulation, un peu comme a fait Bill Clinton, Obama, etc. Donc, et que proposait Hillary Clinton en 2016. Et un courant auquel s'oppose celui que portait Bernie Sanders en 2016, et qui était un courant, pour le coup, alors Bernie Sanders se décrit lui-même comme un socialiste, qui est ce qui veut dire communiste aux États-Unis, donc c'est vraiment un gros mot. Il se présente comme ça parce qu'il réclame à la fois la fin du libre-échange, lui aussi, l'éducation gratuite dans les universités d'État, la santé pour tous, enfin un programme extrêmement radical pour les États-Unis. Ces deux courants s'étaient affrontés en 2016, n'ont pas réussi à se réconcilier depuis. Et j'y ajoute une complication supplémentaire, qui est que le Parti démocrate, depuis les années 70, a développé un programme multiculturaliste qui découpe la population américaine en petits morceaux, et en proposant pour chacun des bouts de programme, alors pour les latinos, pour les afro-américains, pour les LGBT, pour les femmes, etc., etc. Une vision qui n'est plus du tout une vision universaliste du pays. Et ils n'ont pas, alors non seulement ils ont deux programmes économiques contradictoires et irréconciliables, mais au-delà de ça, ils ont une vision extrêmement découpée du peuple américain. Ils n'ont pas un projet pour tout le monde, enfin un projet pour le peuple américain.
Ce qu'on appelle la gauche identitaire aujourd'hui, il y a un livre voilà, qui
oui,
vient d'être traduit en France, de Mark Lilla.
Hein, mais voilà. Oui, il a raison,
à 80%. Il y a un débat terrible là-dessus aux États-Unis. Et ce qui est le pire de tout, peut-être, et je m'arrête là, c'est qu'aujourd'hui, Trump partage cette vision multiculturaliste de l'Amérique. Simplement, il ajoute comme première catégorie de population victime au premier rang, les Blancs, qu'il considère comme une autre population victime qu'il faut aider en priorité.
Est-ce qu'on pourrait dire, Grégory Phillips, quand on pose la question sur qui Donald Trump peut-il encore compter, il peut notamment compter sur ses adversaires et sur leur division?
Oui, c'est un peu une facilité de dire ça, mais il y a personne en face dans le Parti démocrate. Hillary Clinton, qui il y a encore quelques mois semblait encore croire qu'elle pourrait se représenter en 2020. Bon, c'est pas une option clairement. Bernie Sanders, ça va être compliqué. Elizabeth Warren, qui se met en position là ces jours-ci, mais voilà, une personnalité un peu atone par rapport à Trump. Donc c'est un peu une facilité de dire ça, mais pour l'instant le Parti démocrate n'a personne à opposer à Trump, si ce n'est dans ces élections locales où on voit des candidats émergés, par exemple ce jeune démocrate Beto O'Rourke au Texas qui fait une belle campagne, qui ramasse des dizaines de milliers de dollars pour sa campagne, mais on voit dans les derniers sondages qu'il aura du mal quand même à remporter cet État républicain. Donc il y a quelques personnalités qui émergent, mais face à Trump en 2020, il n'y a personne.
Reste la question des cours de justice et de la Cour suprême. Alors la Cour suprême, avec la nomination de Brett Kavanaugh, est-ce que c'est une forme d'assurance-vie aujourd'hui pour Donald Trump et pour les républicains?
Alors, c'est vrai qu'on a, reproché à Trump d'avoir choisi Kavanaugh parmi les quatre de la petite liste parce qu'il défend une position très en faveur de l'exécutif. Et en particulier, il a écrit dans des revues de droit, sur les pouvoirs du président et sur les limites qu'on pourrait y mettre. Et selon lui, il n'est pas possible d'inculper un président pendant qu'il est à la Maison-Blanche parce que ça l'empêcherait trop de mener à bien son rôle de président. C'est-à-dire, grosso modo, cela protège le président en place de toute mise en examen tant qu'il est président. Donc, si une affaire d'exécutif vient devant la Cour suprême, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais la réponse est la même pour toutes les questions. Il y a quelqu'un qui est très, très embêté à la Cour suprême actuellement, c'est le président, le Chief Justice Roberts, parce que il sait très bien que si il commence à y avoir une série de décisions 5-4 qui seront immédiatement interprétées à juste titre.
5-4 comme parce qu'ils sont 9. Hein,
voilà, exactement. Les 5 conservateurs contre les 4 progressistes. Décisions qui seront donc vues comme étant partisanes. Et à juste titre, c'est la fin de la Cour suprême, c'est la fin de la crédibilité, de la légitimité de cette institution qui tient le système politique. Parce que ce système politique qui repose sur la primauté du droit, la rule of law, a besoin de cet arbitre suprême, la Cour suprême. Mais encore faut-il que cet arbitre ne se décrédibilise pas en devenant elle-même partisane et politique. Donc il faut penser que même, d'ailleurs on va le savoir dans quelques jours, parce que dans l'affaire du ministre du Commerce, Ross, se pose la question de, est-ce que un juge peut l'obliger à comparaître? Évidemment, la Maison-Blanche a dit, mais il n'y a pas de question, etc. Et c'est remonté très vite jusqu'à la Cour suprême. Donc on va voir là si le Chief Justice réussit à parler à ses troupes en disant, attendez, est-ce que vous préférez vos préférences partisanes, Kavanaugh et Gorsuch, les deux derniers, ou est-ce que vous préférez que l'on pacifie, quitte à ce que très rapidement, dans un an ou deux, et de façon plus insidieuse, il continue à œuvrer pour la dérégulation.
Il y a un dernier acteur qu'on n'a pas encore évoqué, on est presque au terme de l'émission, ce sont les médias, dont on sait qu'ils ont peut-être joué un rôle involontaire, d'ailleurs, dans la dernière présidentielle. En tout cas, ils ont été beaucoup critiqués pour avoir, d'une certaine façon, stigmatisé non seulement Donald Trump, mais aussi les gens qui allaient voter pour lui. Est-ce que, en tout cas, dans la façon dont les médias américains aujourd'hui traitent cette campagne des midterms, Grégory Phillips, on sent qu'il y a peut-être une forme de prise de conscience des erreurs qui ont été faites il y a 2 ans?
Pas vraiment. On parlait d'un pays totalement bipolarisé. C'est vrai dans les médias. Allumez la télé, regardez Fox News, regardez oui. MSNBC. Vous aurez deux versions de l'histoire de cette présidence Trump. Voilà, un pays divisé, des médias extrêmement divisés et parfois partisans. Voilà comment on va traiter ces élections de mi-mandat dans une vingtaine de jours.
Laurence Nardon, sur cette question du rôle des médias.
Oui, c'est vrai. Quand on lit le Washington Post, on a vraiment l'impression que Trump égorge des enfants au petit déjeuner, parce qu'ils sont dans une telle...
Ce qui n'est pas vrai.
Non, jusqu'à présent, j'espère. Parce qu'ils sont vraiment dans une certaine outrance qui décrédibilise les médias progressistes, malheureusement. Le New York Times est plus mesuré. Après, on peut lire le Wall Street Journal, qui est quand même un des journaux sérieux un petit peu pro-Trump. Enfin, d'ailleurs, leur éditeur en chef a dû quitter son poste à cause de ça. Oui. Et puis, il y a tout le monde sans fin d'Internet et des blogs, etc., où la violence verbale est quand même extrêmement forte. Toute la question, c'est de savoir si les libéraux ne sont pas en train de devenir aussi extrêmes du côté gauche que les conservateurs ne le sont du côté droit depuis plus longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une sorte d'asymétrie jusqu'à présent dans la radicalisation des deux côtés du paysage politique. Mais on a l'impression qu'éventuellement, le côté progressiste se radicalise tout autant que le côté conservateur aujourd'hui.
Ces élections de mi-mandat, Anne Desine, ce sera juste ma dernière question en quelques mots. Ce sont des élections qui relèvent de la politique intérieure. Est-ce qu'on a quand même intérêt de s'y intéresser d'aussi près, nous, aujourd'hui, en France?
Oui, parce que si Trump reste au pouvoir, il va continuer à démanteler, et nous n'avons pas parlé d'international, mais ce qui est très grave, c'est qu'il démantèle tout ce qui est le réseau, le multilatéralisme, et la caractéristique du multilatéralisme, là c'est la juriste qui parle, c'est que ça repose sur les règles. Or lui ne veut pas de règles, il veut simplement la souveraineté, qui est le contraire du multilatéralisme, et le rapport de force.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Anne Desine, Laurence Nardon et Grégory Philippe. Laurence Nardon, donc je rappelle, Les États-Unis de Trump en 100 questions. C'est publié aux éditions Talendier. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Vous pouvez la télécharger. Vous pouvez également nous écrire pour nous dire ce que vous en avez pensé, pour nous faire des suggestions pour d'autres émissions. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Fanny Richet, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné, mission réalisée par Alexandre Fougeron, avec à la prise de son Alice Seyed. Et puis je vous renvoie également à la réécoute de l'émission d'hier, Sommes-nous d'indécrottables jacobins, justement à la lumière du remaniement ministériel avec un des grands changements, c'est une ministre, Jacqueline Gourault en l'occurrence, chargée des relations avec les collectivités territoriales. Il en était justement question pendant 40 minutes hier. Arnaud Laporte, la dispute, c'est à vous. Vous attendez, je vous donne la parole.
On peut écouter le grain à moudre de la semaine dernière aussi. Qui
on peut tous les réécouter.
Non mais celui d'hier, particulièrement pertinent.
Particulièrement par rapport à l'actualité d'aujourd'hui.
Oh, il faut bien que je taquine un peu. Eh oui, je réponds sérieusement.
Qu'est-ce qu'on fait demain? On va à la FIAC?
Si vous voulez. Vous faites rien d'autre?
Non.
Bon, allons à la FIAC alors. On ferait quoi, la FIAC?
On va s'intéresser à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va créer un art autonome?
Je cherchais le rapport avec les arts plastiques. La dispute, y sera également. Aurélie Kiefer, vous allez rester à la maison de la radio?
Moi, je suis en formation demain.
Ah, il serait temps.
La radio de demain.
Il serait temps. Je vais vous aider en formation. Bon, nous, on va parler de musique dans 3 minutes avant ça, 19h. Les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.